RFI, grand reportage.
On s'entraîne pour une guerre qu'on espère ne jamais voir.
De fait sécurité, alarme Volvo en Charlie 30-20. Le personnel évacue de la zone.
Après deux mois à patrouiller dans les eaux de la mer Baltique, l'Aquitaine est de retour à Brest, grand port militaire de l'ouest de la France. L'Aquitaine, c'est ce que l'on appelle une FREM, une frégate française multifonction. Pourquoi la Baltique? Il suffit de regarder une carte. Tous les pays riverains sont désormais membres de l'OTAN, sauf un, la Russie. On parle de mission de réassurance de l'Alliance, en clair de renforcement des dispositifs militaires, ici avec 150 marins déployés. 24 heures sur un navire de la marine française en mer Baltique, c'est un grand reportage de Marielle Vituro.
Il est 7h45, la journée commence sur la frégate Aquitaine. Les lampes rouges, allumées pour se guider dans les coursives la nuit, s'éteignent et la chanson du jour retentit. À la rampe, là où l'on sert le petit déjeuner, tout le monde se croise. Il y a ceux qui viennent de terminer leur quart et ceux qui prennent leur poste. Après une escale à Helsinki, le navire fait maintenant route vers la Pologne.
L'objectif principal de notre mission, c'est d'observer ce qui se passe en mer Baltique pour comprendre les comportements, que ce soit des acteurs militaires comme des acteurs civils.
François Tristram, le commandant de la frégate.
L'autre objectif, c'est de soutenir et rassurer nos partenaires de l'OTAN. Par notre simple présence, en fait, on leur signifie qu'on est à leur côté dans cette zone qui est une zone de plus en plus importante, stratégique. Ça nous permet également d'entretenir une connaissance mutuelle, nos savoir-faire opérationnels, qui sont ensuite le gage de notre efficacité lorsque nous aurons à travailler ensemble.
Plage avant, larguer le traversier. Nous
sommes par avant.
Sur cette frégate furtive, longue de 150 mètres, la passerelle, le poste de pilotage, est l'un des lieux stratégiques du navire, l'un des rares endroits d'où l'on voit la mer. L'officier Marceau est le chef de car.
C'est une mer avec beaucoup de circulation, beaucoup de navires de commerce. On a les grands ports commerciaux, que ce soit ceux d'Helsinki, on a également les ports commerciaux de Saint-Pétersbourg, de la Pologne, de différents pays scandinaves, avec des pays à forte industrialisation comme l'Allemagne ou encore la Pologne. Effectivement, on détecte beaucoup de ferries et de transports de marchandises. Et c'est effectivement une des mers les plus chargées du monde. On n'a actuellement que deux passages pour rentrer en mer Baltique, que sont le Skagerrak et le Kagerrak, et qui rendent donc la circulation à la fois au nord, dans les détroits de Finlande, qui sont assez resserrés, donc assez chargés, et également au sud.
Qui restreint ?
Ce matin, en passerelle, tout le monde s'affaire pour un exercice avec l'aviation lettonne, l'artilleur Alois.
Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on simule un index, un exercice d'un aéronef qui se rapproche de nous, qui joue un drone, donc qui va juste faire des passes au-dessus de nous, et nous, on va balancer nos armes en fonction de ça.
L'Antonov letton est passé à basse altitude et à faible vitesse au-dessus de la frégate. Le capitaine de corvette François revient sur l'exercice.
L'aéronef letton donc jouait ce qu'on appelle le rôle d'un Lauslow flyer. Donc c'est un type de menace que l'on peut rencontrer, notamment on en entend parler en ce moment en mer Rouge. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Et il nous faut forcément nous y préparer. Préparer également nos opérateurs à pouvoir interroger ces avions.
Un peu plus tard, les marins de la frégate s'entraîneront à tirer contre terre. Un autre exercice mené lui aussi avec l'armée de terre lettonne. Pendant ce temps, la vie du bateau continue.
On va au local d'air, Delta 20-10, donc un local machine.
Où on trouve ? À l'intérieur.
Des diesels alternateurs.
Donc ce sont les moteurs
qui génèrent de l'électricité à bord.
C'est là que travaille le mécanicien Mathieu.
Et dans le cas des diesels alternateurs, c'est deux moteurs sur les quatre qui est à bord. Donc là, j'étais en train de faire la dilution, on appelle ça. C'est on regarde le taux de gasoil dans l'huile. Donc c'est important, sinon ça peut abîmer fortement les moteurs. Et juste au derrière là, faisait la pointe d'huile. On fait une ronde de vérification tous les jours. Donc dans chaque local des machines, on va regarder les appoints d'huile sur les alternateurs. On va purifier les bouteilles d'air pour éviter qu'il y ait de la condensation qui se forme dedans. C'est quelque chose qu'il faut faire parce que c'est de trop gros risques d'usure sur le bateau. Sur les moteurs, c'est aussi une propulse. Donc à partir de là, on ne peut pas se permettre de manquer un jour.
La veille, la frégate, sous le commandement de l'OTAN, avait reçu l'ordre de faire décoller son hélicoptère embarqué. Le commandant François Tristram raconte.
Alors nous quittions notre escale de Helsinki et donc nous avons eu l'information qu'un convoi de bâtiments militaires russes transitait entre Saint-Pétersbourg et le sud. Et donc nous avons reçu l'ordre de repositionner ce groupe. Donc c'est ce que nous avons fait en faisant décoller notre hélicoptère, puisque ce groupe était à une grande distance de notre bâtiment. L'hélicoptère a la longe suffisante pour aller à une distance raisonnable, observer la route et la vitesse de ce convoi.
Le lieutenant de vaisseau Gonzague était aux commandes.
En l'occurrence, ce jour-là, il nous a fallu relocaliser des bâtiments de surface d'un de nos compétiteurs stratégiques annoncés dans la zone. Donc avec mon équipage, on a décollé pour aller rejoindre une zone de patrouille pour, dans cette zone, retrouver avec nos capteurs ces bâtiments en question. Donc, quel capteur on a pour retrouver un bâtiment en surface? On a principalement notre radar panoramique qui nous permet de détecter des pistes surface jusqu'à 200 nautiques et qui nous permettent également, c'est pour ça que ce radar a été conçu, d'identifier un périscope de sous-marin. Donc c'est un radar qui est très performant. En plus de ce système, on a ce qu'on appelle un FLIR. Un FLIR, c'est une caméra infrarouge qui va nous permettre, de jour ou de nuit, à longue distance, d'avoir une identification visuelle d'une piste, d'un bateau, d'un aéronef. Donc voilà. On a également nos yeux pour voir. Et ça, c'est aussi un élément important. On assure une veille attentive de tout ce qu'on peut voir autour de nous.
Plus tard, dans le central opération, devant les multiples écrans qui scrutent la mer et le ciel en permanence, le commandant donnera plus de détails sur ces bâtiments militaires russes repérés au nord de l'île suédoise de Gotland. À l'entrée de la frégate en mer Baltique, au début de la mission, la situation a été nettement plus tendue.
Alors on se trouvait à peu près à une centaine de kilomètres de l'enclave de Kaliningrad lorsque les aéronefs ont fait route vers nous. Et lorsque nous les avons interrogés à la radio pour signifier notre présence, en leur demandant de s'écarter, à ce moment-là, ils ont réagi en s'écartant. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils ont fait route vers nous pour nous survoler en montrant leurs armes sous leurs ailes.
C'est une manière un peu affirmative aussi de montrer qu'eux sont là ?
Oui, c'est ça, c'est une manière de montrer leur présence. Et nous avons continué notre patrouille sans changer de route, sans changer de comportement, mais en exprimant finalement notre capacité à naviguer dans cette zone, exercer notre liberté de navigation dans cette zone.
Une situation qui s'était déjà produite avec d'autres navires français en mer Baltique, notamment avec la frégate Chevalier Paul. L'OTAN avait alors publié un communiqué le 18 novembre 2022, dénonçant le survol dangereux du navire par deux avions russes. Le commandant s'attendait à cette situation.
Comme nos missions sont quasi permanentes dans la région, on a ce retour d'expérience qu'on échange entre bateaux. Et je savais que mes prédécesseurs avaient déjà été survolés. Et donc j'étais préparé pour ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de ne pas être surpris et de ne pas surréagir finalement à quelque chose qui est assez usuel dans la région. Et d'ailleurs, quand les bâtiments russes passent au large de Brest, nous aussi, on envoie des bâtiments pour voir ce qu'ils font, les survoler à distance raisonnable. Mais finalement, c'est quelque chose d'assez normal de surveiller ces approches.
Deuxième service paré, bon appétit.
Pour ravitailler les 150 marins trois fois par jour, le navire a son boulanger qui cuit le pain tous les jours. 20 baguettes pour le petit déjeuner, 40 le midi et 40 le soir. Et à chaque grade, ses particularités pour être servies, relève le quartier maître Riyad.
Il y a une tradition pour le commandant. Il y a le maître d'hôtel et, qui est en accord avec, avec le commandant. Il y a un signe du commandant. Et le commandant, on se met au garde à vous. Le commandant est servi et après, le commandant est servi. Tout le monde répète et tout le monde va s'installer pour que l'état-major passe à table.
De nouveau, en passerelle, tout le monde est sur le qui-vive. L'Aquitaine reçoit la visite du Stockholm. Bertrand, commandant en second.
Alors aujourd'hui, on est très heureux d'être peut-être la première marine à pouvoir faire un exercice conjoint avec un navire de la marine suédoise, alors que la Suède vient tout juste d'intégrer l'OTAN. Et en rencontrant une corvette suédoise à la mer, en mer Baltique, eh bien, on a cette possibilité d'échanger des marins. On a envoyé 4 marins sur le Stockholm, la corvette en question, et on reçoit à notre tour 4 marins suédois à notre bord pour leur faire découvrir notre frame. On s'échange du personnel et en fait cette connaissance mutuelle elle est primordiale. Parce que plus on connaît son partenaire de l'intérieur, de façon informelle, comment son bateau est organisé, et bien on est plus efficace au combat.
L'arrivée de la Finlande dans l'OTAN il y a quelques mois, puis de la Suède tout récemment, sont des bonnes nouvelles.
La force de l'OTAN, en fait, est non seulement dans ses capacités militaires qu'elle peut avoir et que chaque partenaire fournit, mais en fait c'est surtout le nombre. Et le nombre, quand l'OTAN s'exprime sur une question internationale, quand la voix de l'OTAN ressort sur des questions de défense, elle est d'autant plus forte que le nombre d'alliés qui font partie de cette alliance est nombreux.
L'ENH est en retour sur nous. Une fois qu'il sera posé, on lancera le poste de combat. Et ensuite, on déroulera le Securex prévu cet après-midi.
Le Securex est l'exercice de sécurité. Sur le bateau, dans ce monde en vase clos, chaque marin a son rôle de militaire et toujours une autre fonction, secouriste, pompier, afin d'assurer la sécurité. Les voies d'eau et les incendies restent finalement la plus grande menace au quotidien.
Nous venons de percuter un objet sous-marin. Nous venons de ressortir une secousse avant et demander à tout personnel d'effectuer une ronde des fonds et de rendre compte au PC Sécurité.
Tout ensuite s'accélérera, un incendie éclatera à plusieurs endroits. Dans les coursives, les pompiers dans leur tenue de protection dérouleront de longs tuyaux et le carré des officiers se transformera en centre de soins pour les blessés. La frégate est un navire de guerre. Elle est donc équipée en conséquence avec des missiles de croisière navale et des missiles de lutte anti-aérienne. Le commissaire Corentin fait la visite.
Mais on a toujours, pour l'autodéfense, une capacité artillerie avec un 40-76 mm qui se trouve au-dessus de nos têtes, deux canons de 20 mm qui sont téléopérés depuis la passerelle, et puis des mitrailleuses 12,7 mm également sur les ailerons. Pour l'autodéfense, notamment contre les menaces asymétriques, mais pas seulement.
Même en temps de paix, certaines règles sont à respecter sur le navire. Le capitaine de corvette, François.
Alors, évidemment, ce qu'on demande lorsqu'on est en mer, c'est d'avoir une certaine discrétion. Voilà, on reste un bâtiment militaire. Notre but aussi, c'est d'éviter d'être détecté par d'autres unités. Et donc, dans ce cadre-là, certains outils que nous avons lorsque nous sommes à terre, comme un téléphone portable, doit être utilisé avec parcimonie. Donc on va demander à nos équipages, typiquement, d'avoir un téléphone portable en mode avion, ce qui évitera qu'il borne sur des stations terrestres et donc amener une indiscrétion du bateau lors de sa navigation. Ça fait partie également de notre préparation, de s'entraîner à être discret. Et donc si on ne le fait pas en temps de paix, on n'y arrivera pas en temps de guerre.
Dans un des locaux de la frégate, on trouve aussi le poisson, une grosse boule jaune qui cache un sonar ultra performant et qui sert notamment pour la dissuasion contre les sous-marins nucléaires. Son pilote est le lieutenant de vaisseau, Paul-Henri.
L'enjeu de la dissuasion en mer Baltique est très faible à mon sens, parce que c'est une mer très fermée. Donc compliqué de s'y rendre. Il faut être en surface pour franchir les détroits danois. Donc globalement, il n'y a pas le même enjeu de dissuasion. En Baltique, c'est plus de l'entraînement et puis des suspicions quand on pourrait avoir un sous-marin, un écho qui est un peu étrange. Dernièrement, on a eu un écho justement un petit peu étrange. Et donc pour ça, on a mis le poisson à l'eau pour s'assurer qu'on n'avait vraiment rien autour de nous. Effectivement, on n'avait rien autour de nous.
Un équipement qui amène à faire réfléchir pour le commandant François Tristram.
Toutes nos frêmes à Brest sont dotées de cet armement. Mais en fait, c'est pas l'objectif principal. Ici, on est dans une mission d'observation de la situation maritime et aérienne. Il s'agit pas de placer un porteur de missiles de croisière à un endroit donné. C'est vraiment pas l'objectif. Mais par contre, effectivement, ça peut être vu par nos compétiteurs comme un marquant fort. Donc c'est à prendre en compte.
La frégate circule dans les eaux de la mer Baltique, loin de l'Ukraine, mais tout proche de la Russie. Impossible pour le lieutenant Paul Henry de faire abstraction de la guerre.
Je suis engagé dans l'armée en sachant qu'il y a toujours cette possibilité-là. Je vous mentirais en disant que j'y pense tous les jours. En revanche, c'est certain que c'est une possibilité et que les tensions dans le monde... Et les exemples récents de guerre en Ukraine ou les engagements actuels en mer Rouge font penser que peut-être un jour on sera amené à engager des armes. J'espère le plus loin possible. Une expression que j'avais entendue, on s'entraîne pour une guerre qu'on espère ne jamais voir. Voilà, c'est le propre des armées. On passe notre temps à s'entraîner en espérant ne jamais faire usage des armes de la manière dont on s'est entraîné.
Au nom du Père qui a séparé les eaux d'avec le ciel et la terre, et du Fils qui foule et apaise la tempête, et de l'Esprit qui plane au-dessus des océans, Vierge Marie, Reine des flots.
À bord, le prêtre, le padré, comme on le surnomme, évoque régulièrement ses questions avec les marins. Tous les jours, à 18h, il s'installe dans le local des torpilles. Un chariot revêtu d'une nappe se transforme en hôtel. Et il célèbre la messe.
C'est une question que certains abordent, voilà, moi que je ne provoque pas nécessairement, mais là, à bord, j'en ai déjà discuté avec l'un ou l'autre, oui. C'est des questions qui se posent au moment où on fait des exercices, au moment où il y a un compte-rendu, au moment où on réfléchit, on évoque tel ou tel aspect de la mission.
Les fonds de la Baltique sont traversés de part en part par de nombreux câbles et autres connexions énergétiques entre les pays, des gazoducs, mais aussi des câbles électriques entre la Lituanie et la Suède, par exemple. La mission de l'Aquitaine est certes militaire, mais son rôle civil demeure important, relève le commandant François Tristram.
C'est vraiment le cœur de notre mission, c'est d'observer pour comprendre sur le temps long. Ça permet d'avoir une certaine profondeur stratégique aussi pour la France, qui étudie aussi ces informations, et une compréhension fine des comportements pour voir finalement les choses qui vont changer de l'ordinaire et qui nous permettent de mesurer éventuellement des changements de posture des uns et des autres. On peut aussi comparer les comportements, voir des comportements anormaux, ça peut être dans le trafic civil, et c'est de cette façon qu'on contribue aussi à la protection de toutes les installations critiques, qu'elle soit de surface ou sous-marine.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Et je la regarde enchaîner les cigales.
Sur la frégate, tout le monde se croise. Pour ceux qui ne seront pas de quart et qui pourront dormir cette nuit, la journée se termine par un jeu vidéo, quelques notes de guitare, une discussion sur l'état du monde. À 7h45, le branle-bas retentira. Les compagnies se réuniront pour faire un point sur la journée à venir. Et l'Aquitaine poursuivra sa route.
"24 heures sur un navire de la marine française en mer Baltique", un grand reportage de Marielle Vitureau, réalisation Eva Piena. Jamais.